L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local. On revient après une semaine de pause et puis quelques jours surtout après l'annonce du reconfinement. Malgré cette période pas très évidente pour tout le monde, on le sait, on continuera à vous informer. Et donc ça commence dès aujourd'hui avec l'annonce officielle du Tour de France qui revient donc en Mayenne l'année prochaine après 22 ans d'absence. C'est désormais donc officiel. On entendra aussi le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne qui réagit à notre micro sur le reconfinement et ses implications pour les commerçants, les écoles ou les associations entre autres. Et puis on va revenir aussi sur une semaine de stage qui s'est déroulée la semaine dernière, dédiée au codage informatique, un stage seulement pour les jeunes filles. Mais tout de suite, un point sur l'actualité en Mayenne. Malgré le confinement, les écoliers, collégiens et lycéens sont retournés ce matin en classe, avec une minute de silence observée à 11h en hommage à Samuel Paty, professeur assassiné il y a 15 jours à Conflans-Sainte-Honorine. À présent, le port du masque est obligatoire en classe pour les élèves dès le CP et d'autres mesures sanitaires vont être mises en place. À Mayenne, plusieurs professeurs ont manifesté devant le lycée Lavoisier. Le but, dénoncer le manque de temps lors de cette rentrée pour organiser un temps d'échange en l'honneur de l'enseignant. Un hommage réduit à une lecture d'une lettre tronquée de Jean Jaurès et une minute de silence, regrette l'une des manifestantes. Les professeurs voulaient aussi dénoncer les conditions d'accueil des élèves en cette période de crise sanitaire. Les chiffres de l'épidémie continuent d'augmenter. En Mayenne, le taux d'incidence est de 222 nouveaux cas pour 100 000 habitants. 51 personnes sont hospitalisées, dont 7 en réanimation. En Maine-et-Loire, on dénombre 398 cas pour 100 000 habitants, avec 219 personnes hospitalisées. Le plan blanc a été déclenché dans les hôpitaux dans la région et des opérations non urgentes ont commencé à être déprogrammées, notamment à Laval. Des commerçants qui désespèrent de ne pas pouvoir ouvrir. Ils étaient une centaine à manifester samedi à Château-Gontier. Manifestation aussi hier à Mayenne. Ils dénoncent l'injustice de ne pas pouvoir ouvrir et d'être considérés comme des commerces non essentiels. Certains commerçants de Château-Gontier, Évron et Laval doivent d'ailleurs rencontrer le préfet ce lundi d'ici quelques minutes à 12h30. Le président du département Olivier Richefou et Joël Ballandreau de l'association des maires demandent au gouvernement, je cite, de faire preuve de discernement et de rouvrir les commerces essentiels. Joël Ballandreau qui rappelle aux maires de son département qu'il leur est interdit de prendre des arrêtés autorisant sur leur commune l'ouverture des petits commerces autres qu'alimentaires. Et puis, autre conséquence de ce reconfinement, le job dating de Château-Gontier annulé. Prévu aujourd'hui, il n'aura évidemment pas lieu en raison de la situation sanitaire. Mais les demandeurs d'emploi peuvent venir déposer leur CV à l'accueil de l'hôtel de ville. Ils seront ensuite envoyés aux différentes agences d'intérim. Plus de 200 postes sont à pourvoir sur le territoire du Sud-Mayenne, dans le bâtiment, la métallurgie ou l'agroalimentaire. Et puis c'est officiel, depuis hier soir, la Mayenne accueillera bien la 5e étape du prochain Tour de France. Le directeur du Tour, Christian Prudhomme, a présenté ce dimanche le tracé précis de la Grande Boucle 2021. La 5e étape aura lieu le mercredi 30 juin entre Changé et Laval. Un contre-la-montre individuel de 27 km 300. Départ prévu rive droite à Changé sur le parvis de l'église pour ensuite traverser Saint-Germain-le-Fouillou, Saint-Jean-sur-Mayenne, Louvernay, Bonchamp pour arriver ensuite à l'espace Mayenne à Laval. Ce sera la 5e fois que les coureurs passent par la Mayenne, à la grande satisfaction d'Olivier Richefou, le président du conseil départemental.
Oui, c'est bien, c'est parfait, c'est super, on en a tous rêvé. Ça fait 22 ans que l'on attend cet événement en Mayenne. Il faut donc maintenant que tous ensemble nous réunissions. Donc des groupes de travail vont se mettre en place, une organisation va se mettre en place pour effectivement faire en sorte que ce soit un jour de fête pour tous les Mayennais, puisque je rappelle que quand c'est un contre-la-montre individuel, c'est l'épreuve qui est le plus demandée par les communes, puisque au lieu de voir passer les cyclistes pendant 5 secondes devant vos yeux, vous les voyez pendant 6 heures.
À Changé, départ du premier coureur à 12h02 pour être précis et arrivée du dernier coureur aux environs de 17h à Laval. Accueillir le Tour de France a aussi un coût, 200 000 euros hors taxes pour les villes départ et arrivée, en sachant que 3/4 de ce budget est pris en charge par le département. Un effort qui vaut largement la peine selon Olivier Richefou.
Pour accueillir une étape du Tour de France, on imagine bien que les retombées elles sont colossales, quoi. À la fois pour le commerce local, mais aussi, je crois que pour nous élus, c'est ce qui est le plus important, c'est aussi pour l'état d'esprit. Enfin, c'est la joie qui est ainsi communiquée à l'ensemble des Méliennais qui y assisteront. Donc c'est un moment de bonheur. On se rappelle tous enfants d'un passage du Tour de France. C'est des moments de joie. On participe à un événement qui est le cinquième événement, je crois, sur le plan mondial, le plus regardé à la télévision dans le monde. C'est comme si on avait une épreuve olympique qui se passait à Laval.
En général, 1 euro investi pour l'accueil du Tour correspond à 9 euros de retombées économiques. Avant cette cinquième étape mayennaise, les coureurs arriveront de Fougères en Ille-et-Vilaine et à l'inverse, ils s'en iront le lendemain vers Tours. Nous avons interrogé le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, Philippe Henry, il y a quelques jours. Sujet principal, bien sûr, le reconfinement et ses conséquences. Vous l'entendrez d'ici quelques minutes après Jungle. On écoute Cherry. Du local sur l'autre radio. Évidemment, c'est le mot sur toutes les lèvres en ce moment et depuis vendredi, le confinement ou le reconfinement. Les sorties sont limitées au strict nécessaire, plus de rassemblements, fermeture des bars, restaurants et petits commerces. Comment Philippe Henry, le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, envisage-t-il cette nouvelle restriction sanitaire? Réponse à notre micro. L'interview a été enregistrée jeudi matin, au lendemain de l'annonce du président de la République, avec cette première question. Le reconfinement était-il vraiment une surprise ?
Écoutez, on s'attendait et on le savait, puisque la situation sanitaire se dégradait dans de nombreux départements, dont d'ailleurs le département de la Mayenne. On s'attendait effectivement à un certain nombre de décisions. On a été un peu douché quand même hier soir, et je crois que beaucoup l'ont été aussi, dans le sens où on pouvait imaginer à ce qu'il y ait une sorte de couvre-feu qui soit effectivement mis en place pour éviter les rassemblements, et notamment et familiaux, et festifs, et conviviaux, après après 19h ou 20h comme ça se passe dans d'autres départements, et maintenir quand même une activité un peu commerciale. On voit bien que la décision qui a été prise, c'était un entre-deux entre le confinement qu'on a connu et un couvre-feu qu'on aurait souhaité, avec, on le voit, les activités industrielles, économiques, de bâtiments qui vont pouvoir effectivement perdurer, avec les écoles, les crèches, là aussi, les collèges, les lycées qui vont rester ouverts. Par contre, on va effectivement fermer les bars, les restaurants. Ceux-là ne vont pas avoir de possibilité du tout d'activité, mis à part ce qu'on appelle de la livraison, mais on sait très bien que c'est pas une activité qui est rentable, et donc c'est plus du service, mais ça va effectivement énormément dégrader à nouveau cette fin d'année pour eux. Et aussi, on pense au petit commerce. Moi, j'ai eu pas mal de réactions de gens qui vendent des chaussures, qui vendent des vêtements, qui vendent des fleurs, et qui se disent pourquoi nous, alors que à côté de ça, on va pouvoir acheter des chaussures, des vêtements dans les grandes surfaces. Donc on aurait effectivement souhaité que sur la question notamment du petit commerce, il y ait une approche qui soit un peu plus avec de l'empathie et qui soit plus compréhensive. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi on ne va pas pouvoir aller chez notre fleuriste acheter une plante alors qu'on sera tout seul dans le magasin, alors qu'on va pouvoir acheter des fleurs dans une grande surface où on sera 150 ou 200. Donc ça, c'est, je pense, des choses qu'il va falloir préciser et pour lesquelles on espère que ce temps de confinement ou de l'annonce permette là aussi de repréciser et pourquoi pas de réorienter les choses sur du court terme, quoi.
Puisque ça, justement, ces petits commerçants, vous les avez entendus, ils vous ont... c'est les témoignages que vous avez déjà aujourd'hui, vous les avez rencontrés.
Dès hier soir et ce matin très tôt, puisque j'étais à l'occasion là aussi de rencontres de commerçants artisans à 7h30 à l'Iliade à l'instant là, et donc ils étaient une vingtaine, donc on a pu effectivement échanger, et il y a véritablement beaucoup d'incompréhension. Si on a compris qu'il fallait pas arrêter tout le secteur économique parce que il y a des chantiers à conduire, parce que il y a aujourd'hui un certain nombre de choses qu'il faut effectivement continuer à faire et à produire, se dire que certains vont avoir effectivement la possibilité d'aller travailler et que d'autres, on va leur interdire, alors que on peut imaginer que dans les petits commerces, avec toutes les précautions notamment qui étaient prises jusqu'à maintenant, on aurait pu effectivement préserver encore quelques activités en limitant, clairement, comme ça a été dit et comme on l'a, nous, fait sur la ville, arrêter effectivement tous les aspects de grands rassemblements festifs, puisque nous, ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, depuis le 16 mars dernier, on n'a mis aucune salle publique à disposition, donc aucune salle communale à disposition pour un événement familial, pour un mariage, les salles ont été fermées effectivement à tout ce type d'événements-là, et donc on aurait préféré effectivement que les choses soient effectivement déclinées autrement. Donc ça fait partie effectivement des mauvaises nouvelles auxquelles on aurait pu penser avoir tiré quand même les leçons et les conclusions du premier confinement. Et le deuxième volet, ça va concerner aussi les activités sportives et associatives. Moi, j'y tiens aussi beaucoup parce que nos associations sportives et associatives, elles ont déjà vraiment vécu difficilement le premier confinement, l'arrêt de toute activité, de toute compétition. Et on sait que là aussi, la pratique sportive est en quelque sorte aussi une bonne thérapie pour mieux vivre ce confinement, et qu'on aurait là aussi imaginé à ce qu'on puisse maintenir un certain nombre de pratiques sans forcément aller dans les vestiaires ou aux toilettes, mais avoir
effectivement... Ce qui était déjà le cas, en fait, beaucoup de vestiaires était déjà fermé.
C'est ça. C'est ça, comme on le faisait effectivement beaucoup et ça fonctionnait bien, on s'y était habitué, les enfants prenaient une douche à la maison, mais au moins ça permettait d'une certaine façon de maintenir quand même celle-là aussi du lien social et une pratique sportive qui, on verra ce soir, mais risquerait d'être à nouveau effectivement aliénée. Donc là, c'est aussi la deuxième mauvaise nouvelle parce que nos enfants, nos jeunes, tous, mais plutôt eux aussi, en priorité, ils ont quand même besoin d'avoir une activité, une pratique sportive, ça leur fait du bien et je pense que ça leur permet aussi de mieux vivre le confinement.
Et donc oui, vous parliez des clubs sportifs, des associations sportives en général, mais aussi les associations autres, donc dans le domaine de la solidarité entre autres ou pas, qui, on s'en souvient déjà lors du premier confinement, avaient été touchées aussi parce que beaucoup de leurs bénévoles sont des retraités, donc étaient obligés plus ou moins de se confiner, donc de rester chez elles. Là, vous avez peur que ce soit le même scénario qui se profile ?
Bon, ça a déjà été un coup de grâce hein, pour certaines associations parce que, comme vous l'avez dit, on a quand même beaucoup de bénévoles, notamment dans l'action sociale, beaucoup de bénévoles qui ont plus de 70 ans. Donc on a beaucoup, beaucoup de gens retraités qui donnent beaucoup de leur temps et qui, déjà à la suite du premier confinement, pour certains ont mis en sommeil, pour d'autres ont mis fin, leur engagement associatif et qui a fait que, on l'a vu, il a fallu pallier avec des volontaires, il a fallu pallier aussi avec des personnes de la collectivité pour garantir et assurer le service. Ça a été vrai notamment pour toute la question de la distribution alimentaire. Et là, effectivement, à nouveau, le contre-coup qui est donné, il ne faudrait pas non plus qu'on désespère ou qu'on déshabitue les gens qui donnent de leur temps, les bénévoles, parce que on peut se retrouver dans une situation où on sait très bien que plus la situation va durer, plus on va s'installer dans une nouvelle organisation de son temps personnel et que les choses seront compliquées pour revenir en arrière. Donc les habitudes qui vont être prises, qui ont été prises hier et qui vont être prises demain, seront des habitudes qui risqueraient de devenir notre quotidien. Donc l'engagement associatif, il ne faut pas le désespérer parce que à force effectivement de le mettre en sommeil, on risquerait effectivement de pâtir aujourd'hui de gens qui cesseraient à terme complètement leur bénévolat.
Donc ce qui est bien évidemment à éviter à tout prix, j'imagine, forcément. Autre conséquence aussi de ce confinement, qui est un peu différent du coup du premier confinement qu'on avait vécu, c'est que là, les écoles, collèges et lycées restent ouverts. Comment ça se passe pour tous les moments autres que les cours, c'est-à-dire à la cantine ou pour le transport scolaire ou pour les activités périscolaires? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été mises en place ou qui sont prévues?
Alors on a déjà des protocoles hein, qui ont été mis en place concernant le port du masque, concernant le lavage des mains, concernant la désinfection après chaque activité, concernant la restauration scolaire. Donc il y a déjà aujourd'hui un certain nombre de protocoles qui ont été mis en place. Ce qui se disait en mars 2020 ne se dit plus en novembre 2020, puisqu'on parlait notamment de l'effet contamination des plus jeunes et on s'aperçoit que avant 11-12 ans, ils ne sont pas si porteurs que ça et ils ne sont pas si hyper contaminants que ça d'après les généralités qui sont avancées aujourd'hui. On sait très bien que ces jeunes aujourd'hui, ils ont besoin d'aller à l'école, ils ont besoin aussi de retrouver, notamment socialement, leurs copains et leurs copines. Et on sait très bien que ce premier confinement a été de nature à générer de nouvelles inégalités, notamment entre les parents qui avaient du temps, ceux qui n'avaient pas de temps, entre les parents qui avaient la compétence ou qui avaient la possibilité de suivre les études de leurs enfants et ceux qui étaient plus en difficulté. Bref, on a créé un fossé à ce moment-là, et je pense que le fait de maintenir la scolarité, de maintenir les établissements scolaires aujourd'hui ouverts, est une bonne chose, par contre, pour nos jeunes, et est une bonne chose aussi pour les parents, parce que des parents à qui on va demander de télétravailler en s'occupant en même temps des cours et des enfants à la maison, c'est quasiment aujourd'hui mission impossible, et beaucoup de télétravailleurs nous disaient on ne veut pas revivre ça une deuxième fois parce que ça a été compliqué pour nous, mais c'est aussi compliqué pour l'équilibre familial qui se trouvait ainsi dégradé. Donc que l'école soit maintenue, c'est une très très bonne chose. Moi, vous savez, dès le déconfinement du 11 mai, on a été dans les premiers à dire qu'il faut réouvrir vite les écoles. C'est-à-dire qu'il y avait une urgence par rapport à cela. C'est vraiment important, effectivement, que nos enfants puissent continuer leur scolarité normalement et puissent effectivement conserver aussi ce lien social avec les copains et les copines. Donc ça, c'est effectivement une bonne chose. À nous de nous adapter sur le plan sanitaire, à nous de nous adapter par rapport à la situation. Aujourd'hui, en Mayenne, elle n'est pas dramatique ou aussi dramatique que dans d'autres départements. Et là aussi, j'espère que tout va se décider de Paris pour tout le monde et qu'on pourra effectivement apprécier les choses région par région ou département par département.
Et justement, vous, en tant que maire d'une commune ici en Mayenne, lorsqu'on vous annonce, alors forcément c'est le cas pour tout le monde, mais des grandes annonces comme ça au niveau national, quel est votre pouvoir en fait de mettre des choses en place au niveau local? Est-ce que vous vous dites de toute façon tout est décidé, comme vous le disiez, par le gouvernement ou par les députés, en tout cas au niveau national, et moi ici je ne peux pas faire grand-chose à part du coup essayer d'adapter comme on peut, mais comment est-ce que vous voyez les choses du coup de ce point de vue-là?
On va faire comme on a fait après le 16 mars, c'est-à-dire un, déjà on va gérer l'urgence. L'urgence, je pense qu'on va mettre un certain nombre de cellules à nouveau en place, notamment concernant les appels pour les personnes âgées, concernant notamment tout ce qui a été fait pour la partie effectivement solidarité, tout ce qui peut être aide alimentaire, tout ce qui peut être course à domicile. Enfin, on va essayer de réorganiser un certain nombre de choses comme on l'avait fait sur le premier confinement, et on va continuer à être force là aussi de propositions auprès du préfet. Château-Gontier a montré sa capacité à s'adapter. On l'a vu avec les marchés où on a créé ce qu'on appelait des marchés isolés pour maintenir l'activité des producteurs. On va essayer là aussi d'être force de proposition pour les initiatives locales, donc en matière notamment de commerce, en matière d'activité. L'enjeu, c'est de faire en sorte qu'en respectant un protocole sanitaire, on puisse continuer un certain nombre de choses et qu'on puisse non pas vivre comme on l'a subi au mois de mars, un arrêt brutal de tout, puisque, on le sait, les entreprises resteront ouvertes, les écoles resteront ouvertes, les administrations resteront ouvertes. Donc tout le monde va rester ouvert, mis à part ceux qui se retrouvent aujourd'hui un peu montrés du doigt, que sont les commerçants de proximité, alors qu'eux mériteraient aussi d'être autant défendus que les autres, parce qu'ils ont leur mission, ils ont une réalité économique, mais ils ont aussi une mission d'intérêt public, d'intérêt général, avec ce lien social qu'ils créent. Et cette vie qu'il porte aussi dans nos territoires. Et donc, il va falloir se battre vraiment pour que ce temps de fermeture soit le plus court possible et qu'avec des protocoles sanitaires, mais on permette quand même d'aller chez son fleuriste, d'aller chez son coiffeur, d'aller dans son magasin de chaussures ou son magasin de vêtements. Il faut vraiment que ces activités-là ne soient pas arrêtées aussi brutalement. Et donc, il va falloir qu'on fasse des propositions, je pense, pour qu'on puisse aménager les choses. Et comme je le disais, entre Lyon et Laval, il y a des grosses différences aujourd'hui en termes de contamination et en termes là aussi de positivité. Donc ce serait bien qu'on nous laisse apprécier les choses localement et qu'on puisse effectivement être des territoires expérimentaux dans un contexte là aussi qui sera regardé de près et que si la situation se dégrade, eh bien on aura effectivement à resserrer un peu les taux. Mais au vu de la situation aujourd'hui, on aurait pu laisser un peu d'initiative locale et notamment sur la partie des petits commerces, quoi.
Et vous pensez aujourd'hui avoir une marge de manœuvre ou c'est ce que vous demandez justement ?
Ah ben on va la demander, on va même la réclamer. Et on s'est au premier confinement battu pour faire en sorte que toutes les propositions qu'on faisait soient des initiatives et qu'elles soient en quelque sorte validées à l'époque par le préfet pour nous laisser effectivement la possibilité de démontrer que les choses pouvaient se faire. On l'a fait sur le marché isolé, on l'a fait sur un certain nombre d'initiatives locales, on l'a fait aussi sur l'ouverture de la déchetterie où on a été les premiers à la réouvrir dans tout le Grand Ouest pour bien montrer qu'on pouvait respecter des gestes barrières, mais on pouvait maintenir là aussi le service au public. Donc on va continuer à être force de proposition et surtout pas se résigner à cette situation-là.
C'est vrai que là, on a été assez négatif, mais forcément de par le contexte qui est compliqué, on le sait, au moins jusqu'au 1er décembre, donc ce confinement. S'il y avait un message que vous voudriez passer aux auditeurs et notamment aux habitants ici de Château-Gontier-sur-Mayenne ?
C'est vraiment le fait aujourd'hui de jouer collectif, c'est serrer les coudes, parce qu'on a besoin de tout le monde dans ces moments-là. On a effectivement besoin de regarder devant. C'est ce que j'ai dit aux chefs d'entreprise et artisans, commerçants tout à l'heure, c'est que on est dans un territoire dynamique qui rayonne et donc qui fait que on va avoir des choses où on souffrira certainement moins dans d'autres territoires parce qu'on a une vie économique qui fonctionne bien, on a aujourd'hui une vie locale qui fonctionne bien, donc il n'y a pas véritablement de feu totalement au rouge qui mettrait en grande difficulté l'ensemble du collectif. Donc l'enjeu, c'est effectivement de continuer à jouer collectif et surtout dans cette période-là, là où on a tous une responsabilité, c'est que vers les secteurs aujourd'hui qui sont les plus en difficulté, on a une responsabilité de les prioriser dans nos actes d'achat, dans nos choix. Il faut vraiment qu'on se dise que si tous on joue cette carte-là, nos commerçants, nos producteurs, enfin ceux qui sont aujourd'hui un petit peu mis à la marge de ces confinements, puissent de moins se dire ils ont été soutenus, on les a soutenus et on les reverra en 2021. Et je crois qu'on a vraiment une responsabilité collective et individuelle, chacun à notre niveau, de pouvoir là aussi soutenir les secteurs qui sont effectivement les plus en difficulté et les aider. Et quand on a consacré en quelque sorte ces derniers euros de pouvoir d'achat, c'est bien à les investir dans ces secteurs-là parce que c'est eux qui vont avoir besoin de nous demain.
Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Philippe Henry, d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
We're stuck here, here where the many pains, where the letter tears, hearts once open and now closing down. They wanna get even, want the joker, run the threat. It's
recognize me, no call for an all, and can wash it all away. Far here we must be, far here we must stay. Always, I try always to disappear, it's not enough to die. No. And we're stuck here, here where the minute pains, where the letters are bigger pictures, is where we belong. All together, that's every song, this body of mine, this humanity, is what I love. What I hate me, no escaping, no way out, no running away. Far here we must be, far here we must stay. Always will I try, always to disappear, it's not enough to die, no. It's not enough to die.
C'était Jeanne Haddad avec A War Is Coming. Vous écoutez bien l'autre radio. Nous sommes dans l'émission L'Agité du local. Avec un nouveau feuilleton, cette semaine, on s'intéresse à un stage de codage informatique exclusivement pour les filles. Ça s'appelle Girls Are Coding. Il avait lieu la semaine dernière à l'IUT de Laval avec une vingtaine d'adolescentes, de la quatrième à la première. Un stage passé entre les gouttes du confinement et au programme pendant ces 4 jours. Réalisation d'un site web de A à Z, robotique ou encore codage d'un jeu vidéo, le tout accompagné de professionnels. Mathieu Gesta est chargé de mission formation au RFI Atlantique 2020, un programme régional sur le numérique, organisateur de ce stage.
L'origine du projet est de vraiment pallier au déficit de personnes qu'on a dans les filières numériques. On a 10% de femmes dans le numérique et c'est un scandale. Donc il faut détruire et vraiment combattre la figure du geek qui fait que les jeunes filles se disent « c'est pas pour moi ». Et ça, c'est vraiment l'angle d'attaque, c'est de se dire « voilà, on va faire un stage dédié aux jeunes filles pour qu'elles puissent se dire « c'est pour moi et je vais y aller dans ces filières ». Donc peut-être que dans ces stages, elles vont juste comprendre la logique informatique, elles ne vont pas forcément être recrutées par la suite, mais au moins, elles vont pouvoir être des ambassadrices de la pensée informatique et de dire que l'informatique, c'est pas... que pour les hommes. On a deux types de publics. En gros, on a des jeunes filles qui sont déjà très motivées et qui ont déjà une expérience un peu de codage à différents niveaux. Et on a d'autres qui sont beaucoup plus dans une approche de découverte. Et donc, ils viennent voir ce que c'est un peu le numérique parce que c'est extrêmement large. Ça peut être de la robotique, comme on a fait cette semaine, ou à certains langages informatiques. Ça peut être de la création visuelle. Ça peut être de poser des câbles long des routes pour connecter des réseaux. C'est très, très large, en fait, comme domaine. C'est extrêmement en fait ludique d'apprendre le langage informatique, puisque dès qu'on a une petite difficulté, une virgule qui est mal placée, un slash qui est dans le mauvais sens, ça va pas marcher. Et en fait, on va très vite arriver à surmonter cette difficulté. Et donc ça fonctionne, un apprentissage qui fonctionne comme ça, avec petite difficulté, victoire, petite difficulté, victoire. Et ça, c'est extrêmement agréable et ça rend vraiment l'apprentissage et la découverte du langage informatique extrêmement agréable. Plus on en retrouvera en filière, plus on sera content, puisque la filière informatique souffre vraiment de n'avoir que 10% de femmes. Elle se prive de la moitié des cerveaux de la population, c'est pas du tout bon. Dans la partie conception des objets numériques, d'une part, et dans la partie travail en équipe aussi, c'est extrêmement important de diversifier les profils et diversifier les approches pour sortir un peu du modèle viril et viriliste qu'on peut rencontrer dans les milieux trop fermés. Alors je dis pas que dans le numérique c'est comme ça partout, mais il faut quand même ouvrir, et c'est vraiment important pour les productions d'objets numériques, mais aussi pour la façon dont on les construit au sein des équipes. Là, on a beaucoup d'intervenantes qui sont venues, enfin, on a deux des intervenantes de cette semaine qui sont passées par l'IUT de Laval. Donc c'est aussi très intéressant de voir ce qu'elles sont devenues professionnellement, d'avoir aussi une proximité avec les stagiaires. Effectivement, la question de l'orientation se joue à ce moment-là. En fait, on se dit que c'est aussi à ce moment-là qu'il faut développer les appétences pour ces thématiques-là et attaquer encore une fois la figure du geek et le stéréotype qui se véhicule autour de cette figure caricaturale. En attaquant cette figure au niveau des jeunes filles et des parents. C'est vrai que les deux vont de pair. Parce que c'est pas parce qu'on a là une quarantaine, cinquantaine d'années qu'on n'est pas soumis au stéréotype, en fait. Il faut arriver à déconstruire ce stéréotype du geek.
Et c'est la grande mission de cette semaine de stage. Demain, vous entendrez l'une des participantes déjà très investie. En cette période compliquée, rien de tel qu'un petit conseil lecture. Et aussi pour les petits, oui, ils y ont droit. Place à la chronique de la librairie M. Lirangeau.
M. Lirangeau, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un album qui se remarque d'emblée sur ma table de littérature jeunesse. Ça s'appelle « Mon île ». C'est écrit et illustré par un Néerlandais, Mark Jensen. Et ce qu'on remarque d'emblée, ce sont ces belles couleurs chatoyantes sur la couverture. Beaucoup de bleu assez profond, du vert, des petites taches de rouge, et tout ça dans un univers aquatique. Alors, cet album m'a beaucoup touchée. Il est très simple en soi, mais je le trouve intéressant parce qu'il il fait du bien, tout simplement. C'est une belle histoire qui commence pourtant par un drame, puisque ça démarre par un naufrage. Dans les premières pages, on voit un voilier brisé en deux. Et sur ce voilier, on aperçoit un papa avec sa petite fille et un chien. Donc, ça démarre pas bien du tout. C'est assez dramatique. Sauf que, très rapidement, ces personnages trouvent refuge sur une île, sur une petite île. Et nous, on voit tout de suite de quoi il s'agit, parce que les pages de l'album sont coupées en deux, et on voit sous l'eau qu'il s'agit en fait d'une tortue. C'est le dos de la tortue qui dépasse et qui accueille les survivants. Et ces personnes, les héros de notre histoire, vont s'installer sur cette petite île. Et finalement, ils vont s'y trouver bien. Ils vont s'y construire une petite cabane, et on voit qu'au fur et à mesure du temps, ils passent des bons moments. Et ce que nous voyons toujours aussi, puisque nous avons toujours accès à ce qui se passe dessous, nous voyons cette tortue avec ses grands yeux et vraiment elle a un aspect très 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 sympathique. On la voit souvent sourire, rencontrer d'autres poissons, mais aussi on la voit affronter des dangers et donc elle prend soin de ses hôtes. Et d'ailleurs, elle les promène parce que, bien sûr, une tortue, ça ne reste pas sur place. Donc, elle va voyager dans plusieurs contrées. Et donc, ils vont affronter des situations de grosse chaleur, mais aussi des situations de grand froid. Ils vont même rencontrer des ours polaires. Mais voilà, tout se passe bien parce que la tortue est là et qu'elle fait attention pour que tout se déroule au mieux pour ce père, cette petite fille et ce chien. Et à la fin de cet album, nous voyons arriver un grand bateau qui finalement va sauver ces personnages. Et moi, j'adore la fin. Je vais vous dire la fin, parce que j'aime pas trop d'habitude. Mais bon, après tout, c'est pas un album vraiment à suspense. Mais c'est vraiment très touchant parce qu'on voit cette petite fille qui est montée dans ce grand paquebot et qui, la dernière page, va plonger pour faire un câlin à cette tortue. Pour la remercier. Et là, on comprend qu'en fait, parce qu'en fait, au début, on ne sait pas si les personnages ont compris qu'ils étaient sur le dos d'une tortue. Et là, on comprend qu'en réalité, il y avait une vraie connivence et une vraie affection, une vraie tendresse entre eux. Alors, c'est un album qui parle avant tout de bienveillance. On peut dire aussi de résilience. Ces couleurs dont je vous ai parlé au début, on les trouve pendant tout l'album. C'est vraiment très beau à regarder, à lire. Et je pense qu'un enfant à partir de 3-4 ans pourra être touché par cette histoire. Donc je vous redis de quoi il s'agit. Mon île, de Mark Jensen, aux éditions Kaléidoscope.
Retrouvez M. Lirangeau, 10 places Paul Doumer, à Château-Gontier, ou ou et sur l'autre radio.
Et on poursuit avec un petit rappel. N'hésitez pas encore plus que d'habitude à nous laisser plutôt vos messages, vos initiatives, pourquoi pas vos chansons, vos recettes de cuisine, vos poèmes, bref, ce que vous voulez. En tout cas, qu'on reste en contact. Pour ça, un seul numéro, le 09 70 40 59 40. C'est donc le numéro pour le répondeur. 09 70 40 59 40. Nous pourrons ensuite donc diffuser ces petits messages pendant l'émission. C'est la fin de notre émission L'Agité du local, donc pour ce lundi. À suivre à 19h Solénoïde, à 20h la discothèque de Morgane, à 21h Eldorado. Merci à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite un très bon après-midi, bon courage et à demain à 12h15 sur L'Agité du local.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est L'Agité du local.